Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du mardi 3 mai. Avec le journal de Corinne Audouin, bonsoir Corinne.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel ce soir commence par un coup de pression.
Le PS divisé cherche sa boussole. Après l'accord avec les Verts, les communistes signent à leur tour avec la France insoumise en vue des législatives. Les socialistes sont donc les derniers et LFI prévient, c'est ce soir ou jamais. Et le PS courtisé, Valérie Rabault, la chef des députés socialistes, dit avoir été approchée par l'Élysée pour Matignon. Elle a décliné. Trouver un Premier ministre s'avère compliqué pour Emmanuel Macron qui entamera symboliquement son second mandat samedi avec une cérémonie d'investiture sobre, c'est promis. En Ukraine, l'offensive russe s'intensifie contre Mariupol. Le président Macron a demandé à Vladimir Poutine de permettre l'évacuation des civils. Dans le Donbass, quelques villes résistent encore. Reportage dans ce journal. Et puis l'actualité ce soir, c'est aussi l'ex-juge antiterroriste Marc Trévidic à la barre au procès des attentats du 13 novembre. Les consommateurs qui traquent les prix bas dans les supermarchés et une étude de l'OMS qui alerte sur l'épidémie d'obésité en Europe. Les associations demandent de restreindre la publicité à la télé pour la malbouffe.
À 18h15, un jour dans le monde avec Roger Cohen ce soir qui dirige le bureau du New York Times à Paris et qui va nous éclairer sur cette fuite qui a réveillé toute l'Amérique, le droit à l'avortement directement menacé, qui entraîne d'ailleurs beaucoup de choses avec lui potentiellement. La bataille pour les midterms, en tout cas, risque d'être encore plus violente que ce qu'on pouvait imaginer. À 19h20, c'est le téléphone sonne et nous aussi, ce sont les accords à gauche qui nous intéressent avec Europe Écologie Les Verts. Donc on sait que c'est fait avec le Parti communiste aussi depuis quelques minutes. C'est encore très douloureux pour le Parti socialiste quand même, voilà, qui va nous faire revisiter ensemble l'histoire de la gauche, le programme commun, la gauche plurielle. Que disent ces tractations 2022 ? Recomposition intégrale, alliance de circonstances ou pacte faustien ? Vos questions, vos réflexions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Et donc les socialistes courtisés et plus divisés que jamais.
Oui, ce soir, l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve annonce qu'il quittera le PS si un accord est signé avec la France insoumise. Par fidélité au socialisme républicain, dit-il, les dirigeants du parti ont-ils perdu leur boussole, comme ils le pensent? En tout cas, la perspective d'un ralliement du PS à la nouvelle Union populaire, écologiste et sociale se précise. Après un accord avec les Verts dimanche soir, les discussions continuent avec les socialistes, toujours au siège de la France insoumise à Paris, où nous retrouvons Julie Drouet en direct. Et ça y est, Julie, les communistes viennent à leur tour de signer.
Oui, c'est officiel. Le Conseil national du Parti communiste a validé l'accord avec une large majorité. 120 voix pour, 25 contre, 13 abstentions. Le PC rejoint ainsi la nouvelle Union populaire écologique et sociale de Jean-Luc Mélenchon. C'est d'ailleurs bien lui que les communistes souhaitent voir arriver à Matignon. L'objectif de cette union est de faire élire leurs députés dans une majorité de circonscriptions. Le nombre de circonscriptions n'a pas encore été dévoilé, mais le parti aura un groupe parlementaire, groupe qui défendra les mesures de la France insoumise, le SMIC à 1400 euros, le retour à la retraite à 60 ans, la planification écologique, sans oublier quelques éléments du programme des jours heureux sur les services publics ou la renationalisation d'EDF. Enfin, est bien inscrite dans ce communiqué commun la désobéissance à certaines règles de l'Union européenne. En revanche, la question du nucléaire est évacuée de cet accord. Les communistes seront donc présents pour l'événement commun de lancement le 7 mai prochain. Reste encore à savoir si les socialistes seront de la partie. Pour l'instant, ils ne se sont toujours pas mis d'accord avec les insoumis, malgré le coup de pression des négociateurs qui disaient tout à l'heure « ce sera ce soir ou jamais ».
Merci beaucoup Julie Drouin, avec Stéphane Beaufils en direct du siège de la France Insoumise, et le suspense continue donc. Valérie Rabault a-t-elle dit non à Emmanuel Macron? Celle qui préside le groupe socialiste à l'Assemblée affirme avoir décliné la proposition du président d'entrer à Matignon. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Valérie Rabault, qui est spécialiste des finances publiques, dit qu'elle ne se voyait pas défendre la réforme des retraites.
C'est ce qu'elle affirme en tout cas. Question, dit-elle, de fidélité à ses convictions. C'est ce qu'elle affirme, mais elle ne précise pas par qui elle a été approchée, et c'est toute la subtilité, car l'entourage d'Emmanuel Macron jure de son côté que le président n'a proposé le poste à personne. Alors est-ce qu'on assiste à une partie de poker menteur? Valérie Rabault tente-t-elle de mettre Emmanuel Macron dans l'embarras? Le chef de l'État cherche-t-il par ses dénégations à éviter un camouflet? Quoi qu'il en soit, cette histoire nous dit deux choses. La première, c'est que le président est plus que jamais sous pression. Il y a quelques jours, c'est l'ancienne directrice de cabinet Manuel Valls, Véronique Bédague, qui assurait aux Parisiens avoir décliné l'offre. Alors lui qui n'aime rien tant que prendre son temps n'a pas intérêt à traîner davantage s'il ne veut pas voir sa quête de Premier ministre tourner à l'humiliation. La seconde, c'est que le profil qu'il recherche, fibre écolo, attachement au dialogue social, sens politique sans prendre trop la lumière, plutôt une femme, plutôt de gauche, c'est une perle rare, des qualités en tout cas censées incarner les promesses vertes et démocratiques d'Emmanuel Macron, décidément difficile à trouver.
Et en attendant de trouver la perle rare, merci Simon Le Baron, Emmanuel Macron entamera symboliquement son second mandat samedi prochain avec une cérémonie d'investiture sobre, promet l'Élysée, la proclamation des résultats par le président du Conseil constitutionnel, un discours devant les personnalités invitées, suivi d'une revue des troupes dans les jardins de l'Élysée.
En Ukraine, Corinne, l'espoir d'une guerre rapide s'est éloigné depuis bien longtemps.
Oui, aujourd'hui Emmanuel Macron a exhorté Vladimir Poutine de permettre l'évacuation des civils ukrainiens réfugiés dans l'usine Azovstal de Mariupol. La conversation entre les deux présidents a duré plus de 2 heures. La Russie tente toujours de s'emparer de l'est du pays et notamment de la région du Donbass. Les soldats sont aux portes de Severodonetsk, près de Louhansk. La ville est pratiquement vidée de ses habitants, mais les soldats ukrainiens tiennent leur position. Reportage sur l'avant-dernier checkpoint de la ville de Fabien Gosset et Farida Noir.
Les Russes sont à moins de 10 km. Tout paraît calme, mais Volodymyr, soldat de la défense territoriale, est sur ses gardes.
On essaie de débusquer des groupes différents, des infiltrés qui tentent de passer.
Il est positionné devant l'usine chimique d'azote, déjà vidée de ses composants en cas d'attaque et pour protéger la ville. Mais Volodymyr et ses hommes y restent pour faire rempart.
C'est stratégique parce qu'il y a deux ponts proches qui traversent le fleuve de Sieverski-Donetsk qui sont très importants pour l'offensive de notre armée ou pour se replier.
Dans cette guerre, il est sur tous les fronts et quand il en reçoit l'ordre, ses hommes partent avec lui.
La première ligne, c'est difficile. Soit c'est toi, soit c'est eux. Mais d'un autre côté, tout est très simple parce que à droite et à gauche, ce sont les tiens et en face, c'est l'ennemi. Et moralement, c'est très dur d'y être quand tu vois les pertes chez tes frères d'armes, mais on résiste.
Mais au 69e jour de guerre, l'énergie commence à manquer chez certains. Kalachnikov au bras, Hispanet, 35 ans, ne nie pas la fatigue.
Comme tout le monde, c'est long et pas toujours positif, mais c'est notre rôle de défendre notre patrie. J'aimerais bien que ça finisse le plus tôt possible, mais sincèrement, je pense que ça va durer longtemps. C'est un ennemi difficile. Ils ont beaucoup d'engins qu'ils envoient ici, mais ils terminent à la casse parce qu'on les détruit.
Severodonetsk ne pourra pas être prise par les Russes, mais il n'est pas exclu que la ville soit assiégée, alerte le chef de l'administration de l'oblast de Louhansk.
Le reportage de Farida Noir et Fabien Gosset, nos envoyés spéciaux en Ukraine. Joe Biden passe à l'offensive pour sauver le droit à l'avortement. Hier, un projet de décision de la Cour suprême a fuité. Projet qui prévoit de revenir sur une jurisprudence de 1973 qui légalisait l'avortement. Dans un communiqué, le président américain appelle les électeurs à choisir des candidats favorables au droit à l'avortement lors des prochaines élections. C'est pas tout de suite, élection de mi-mandat en novembre prochain pour Joe Biden. Le droit des femmes à choisir est fondamental.
Et on y revient tout de suite d'ailleurs dans Un jour dans le monde. Il est l'un des visages les plus connus, Corinne, de la justice antiterroriste en France.
Oui, le juge Marc Trévidic est venu témoigner cet après-midi au procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Après 15 années à lutter contre le terrorisme, au parquet puis comme juge d'instruction, il avait quitté ses fonctions en août 2015, quelques semaines donc avant les attentats de Paris et Saint-Denis. En direct du palais de justice de Paris, nous rejoignons Charlotte Piret. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir.
À la barre de la cour d'assises spécialement composée, Marc Trévidic a livré 3 heures d'une déposition extrêmement détaillée. Un témoignage exceptionnel, Charlotte, sur le travail et les limites de la justice antiterroriste.
Oui, la justice antiterroriste, Marc Trévidic en a d'abord connu l'âge d'or, explique-t-il, costume sombre et cravate rouge, puis les premiers signaux d'alerte, mais on a continué à se croire invulnérable. Combien de fois j'ai entendu, il n'y a pas eu d'attentat depuis décembre 2016. Jusqu'à Mohamed Merah en 2012, je ne pensais pas qu'un être humain puisse se réjouir d'un tir dans la tête d'une petite fille. Et pour moi, dès 2013, le système ne fonctionne plus, lâche le juge sans mâcher ses mots. D'autant que peu après, c'est l'appel de la Syrie, poursuit-il. On a vu partir des petits jeunes, des familles entières, des aspirants djihadistes dopés par le califat, poursuit Marc Trévidic, formés à l'émotion de la vidéo. Parmi ceux séduits par la propagande de Daesh, un certain Sami Amimour, futur terroriste du Bataclan, que le juge Trévidic a placé sous contrôle judiciaire un an auparavant, parce que la prison à l'époque ne propose aucune prise en charge spécifique, explique Marc Trévidic, et plutôt le risque d'en sortir plus radicalisé encore, même si évidemment, aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir mis en...
Charlotte Piret. Évidemment. Oui. Je crois qu'on a perdu Charlotte Piret pour la...
Son autre regret, même s'il ne le dit pas aussi franchement, s'appelle Reda Ham dans ce bureau. Ce revenant de Syrie lui parle d'un projet terroriste contre une salle de concert. J'ai dit à la DGSI, il y a rock en scène bientôt, il faudrait peut-être regarder. Et puis je suis allée chercher un document à Lille où je commençais le 2 septembre, 2 mois et demi avant les attentats.
Merci Charlotte Piret, avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Compte rendu d'audience complet à retrouver comme tous les jours sur notre site franceinter.fr. Comment lutter concrètement contre l'inflation qui atteint 4,8% sur un an? Michel-Édouard Leclerc annonce un bouclier tarifaire à partir de demain dans ses magasins. Les prix de 120 produits de première nécessité ne bougeront pas jusqu'en juillet. Alors bouclier tarifaire ou pas, sur les marchés, dans les supérettes, on traque les prix bas. Reportage à LS dans les rayons du supermarché Cora de Ludovic Labastrou.
3000 passages jour dans cet hyper de 10 000 mètres carrés qui propose plus de 80 000 références. Bouclier alimentaire, disent les politiques, ou chez la concurrence, bouclier tarifaire. En tous les cas, Mireille s'étrangle.
J'ai l'impression qu'on nous prend pour des couillons.
Vous continuez à venir faire vos courses?
Oui, et en stressant de plus en plus pour y arriver, parce que je ne vois pas les pensions de retraite augmenter.
Un panier moyen de 70 à 80 euros et un constat, le flux en premier prix au détriment des grandes marques augmente, une demande à laquelle Philippe Janin, le directeur de Cora, s'adapte.
On a des produits d'entrée de gamme, des marques distributeurs qui sont d'un très bon rapport qualité-prix, et vos fournisseurs locaux, régionaux aussi, des produits vraiment bien placés.
Ce qui n'empêche pas les uns et les autres de fureter dans les rayons du magasin.
On gère le maximum. Pour être juste à la fin du mois, on achète tout ce qui est moins cher. Donc on essaie de tourner, de trouver un peu droite à gauche, pour de gratter le moins de centimes ou quoi.
La clientèle s'adapte elle aussi à une inflation qui n'a pas fini de galoper.
Le reportage de Ludovic Labastrou de France Bleu, Gare Lozère. Alors, manger moins cher, c'est bien, mais manger mieux aussi, c'est important. L'Europe est confrontée à une épidémie de surpoids et d'obésité. C'est la conclusion d'un rapport rendu aujourd'hui par l'Organisation Mondiale de la Santé. Une épidémie responsable, selon l'OMS, de 1 200 000 décès par an. Un quart des adultes sont obèses en Europe. Et la pandémie de Covid-19 a notamment changé les habitudes alimentaires et sportives des Européens. En France, un tiers des enfants entre 5 et 9 ans sont en surpoids ou obèses. Face à ce constat, le milieu de la santé et les associations se mobilisent. Bonsoir Louis Fontaine.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Et c'est le cas de Foodwatch France qui milite depuis des années contre les pubs pour la malbouffe à la télévision.
Oui, et cette ONG a déjà obtenu une première victoire contre ce marketing télévisuel. Camille Doriot est le responsable campagne chez Foodwatch France.
Il y a eu une première avancée qui a été faite il y a quelques temps qui s'appelle la loi Gatolin qui permet d'interdire que la pub à côté des programmes jeunesse soit une pub pour la malbouffe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette loi a été analysée par Santé publique France dans un rapport de 2020 et elle concerne en fait que 1% du temps de télévision des enfants.
Cette ONG veut aller plus loin avec une nouvelle loi qui s'inspire directement du Royaume-Uni. Là-bas, les publicités sur les sodas ou encore les fast-foods sont interdites à la télé de 5h du matin à 21h.
Les enfants voient de la pub quand la télé est allumée dans la maison en même temps que leurs parents. Et du coup, c'est bien à tous ces moments-là où il faut interdire le marketing. Il ne suffit pas de l'interdire à côté des dessins animés, il faut bien l'interdire tout le temps, sur tous les médias différents.
Une loi également plébiscitée par Santé publique France. Mais pour Foodwatch, le chemin est encore long. Il faut maintenant convaincre les industriels, les politiques et les chaînes de télé.
Merci beaucoup Louis Fontaine. Allez, on repart avec vous Fabienne. Est-ce que les figolus, c'est de la malbouffe?
Mais pas du tout.
C'est très bon, c'est plein de fibres.
Corinne, merci beaucoup pour le journal. On se retrouve tout à l'heure dans Un jour dans le monde. Vous nous parlerez notamment d'un vol de jouets, tiens au nez, à la barbe de Recep Tayyip Erdogan en Turquie. Ce soir, on parle de cette fuite à la Cour suprême des États-Unis, la menace très violente contre l'avortement. Et puis en deuxième heure, à partir de 19h20, le téléphone sonne et la gauche, alors qu'il cherche à finaliser un accord avant les législatives, la France insoumise et les Verts, c'est fait, on le sait. Avec les communistes, c'est tout chaud, c'est fait également. Avec le PS, c'est une autre mayonnaise entre ceux qui jugent cette alliance indispensable et ceux qui refusent un pacte avec le diable. C'est le thème, en tout cas, de notre discussion ce soir avec vous au 01 45 24 7000.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Jean-Pierre Hameau de Météo France. Bonsoir Jean-Pierre. Beaucoup d'orages ce soir dans le sud notamment.
Oui Fabienne, nous observons de nombreuses averses orageuses en cette fin de journée. D'abord du côté de la Gironde, mais aussi entre le Massif central et la région PACA, et de la région Rhône-Alpes à la région Bourgogne-Franche-Comté jusque vers la Lorraine et l'Alsace. Cette activité orageuse va perdurer une bonne partie de la soirée avant de faiblir en cours de nuit prochaine. Puis demain matin, vous retrouverez des pluies résiduelles dans le sud-ouest sous un ciel bâché et déjà des averses du Massif central aux frontières de l'Est et du Nord-Est. Ces averses prendront rapidement un caractère orageux. À noter beaucoup de grisailles en fin de nuit près des côtes de la Manche. Et puis dans les autres régions, vous profiterez de belles éclaircies matinales. L'après-midi, les averses orageuses seront fréquentes entre le Massif central et le Massif alpin, en passant par le Lyonnais, mais aussi de la Bourgogne-Franche-Comté à l'Alsace-Lorraine. Partout ailleurs, les éclaircies seront agréables. Les maximales évolueront entre 17 et 24 degrés du nord au sud.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci beaucoup. Jean-Pierre, à tout à l'heure après 19h.